Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin deux proches conseillers d'Emmanuel Macron. Ils ont quitté leurs fonctions à l'Élysée hier soir. Ils publient chez Fayard « Le progrès ne tombe pas du ciel ». C'est un manifeste en faveur du progressisme. Vos questions dans 10 minutes, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Ismaël Emelien, bonjour.
Bonjour.
32 ans, vous avez accompagné Emmanuel Macron depuis le début. Vous êtes l'un des fondateurs du Mouvement En Marche, stratège de la campagne présidentielle victorieuse, conseiller spécial du président de la République. Ça veut dire quoi, conseiller spécial ?
Ça veut dire que j'avais le luxe de n'être en charge d'aucun sujet en particulier, mais du coup de pouvoir passer du temps sur un peu tout ce qui était important.
Les idées, la stratégie.
Les idées, la stratégie, essayer de voir un peu à moyen terme et à long terme les résultats de ce qu'on allait faire.
Et bonjour à vous, David Amiel.
Bonjour.
26 ans, vous avez coordonné le programme économique d'Emmanuel Macron. À l'Élysée, jusqu'hier, vous faisiez quoi ?
Je travaillais auprès du secrétaire général pour suivre au quotidien précisément l'application de ce programme.
Alors, vous avez passé ces deux dernières années, sans doute même un peu plus, à fuir micros et caméras, à ne jamais prendre la parole publiquement, à théoriser même ce silence. De fait, on n'a jamais entendu votre voix, Ismaël Emelien. Pourquoi parler aujourd'hui ?
Parce qu'on a écrit ce livre, qu'on quitte l'Élysée pour pouvoir le défendre, donc pour pouvoir en parler. Donc merci beaucoup de nous inviter. On est très convaincus que la réalité de ce qui est mené, les valeurs pour lesquelles c'est fait, la manière dont c'est fait, est assez loin de la caricature qui peut en être faite, même de la perception que beaucoup de Français en ont. Et c'est pour ça qu'on a voulu expliquer tout ça dans ce livre et en parler le plus possible.
Et on va y venir évidemment en détail, ainsi qu'à un certain nombre de questions d'actualité. Mais d'abord donc ce livre, vous avez l'ambition de réunir, de fédérer les progressistes, de leur donner une armature théorique pour organiser le combat. Mais ils sont où? Où les progressistes ? Est-ce qu'ils sont même encore vivants ? Vous dites vous-même qu'ils sont en train de perdre la bataille. Alors expliquez-nous, Ismaël Emelien, puis David Amiel.
Alors on explique qu'ils sont en train de perdre la bataille sur le plan international. Et qu'effectivement, dans ces dernières années, les élections ont été largement remportées par les populistes. Aux États-Unis, au Brésil, le Brexit, ce qui se passe en Italie, en Hongrie. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les populistes connaissent une assez forte dynamique. Donc ça, c'est une des leçons qu'on tire, même des deux ans qu'on a passé à l'Élysée, puisque ça rend évidemment plus difficile pour les progressistes d'avancer sur les grands sujets qui concernent toute la planète, comme le réchauffement climatique, quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous autour de la table. Et puis en France, les progressistes, ils sont dans la majorité présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progressistes ailleurs, mais la majorité présidentielle est le seul camp qui est homogènement progressiste.
Il nous faudrait une définition du progressisme à ce stade-là, David Amiel. C'est quoi le progressisme ? Suis-je une progressiste ? Répondez aux questions peut-être que les auditeurs se posent.
Alors pour la deuxième question, je serais bien en mal d'y répondre. Pour la première, pour savoir ce qu'est le progressisme, la manière dont on le définit, c'est de dire que c'est un objectif, une condition et puis une méthode. L'objectif, c'est de permettre à chacun de maximiser ses possibles, c'est-à-dire de donner à chacun la capacité de choisir sa vie. La condition, c'est de le faire ensemble, parce que si chacun essaie de le faire dans son coin, ça ne marchera pas. Et en caricaturant un peu, c'est pas aux chômeurs de résoudre tout seul le problème du chômage. Et puis la troisième condition, c'est de commencer par le bas, c'est une condition de méthode, et c'est comme ça qu'on a intitulé le livre « Le progrès ne tombe pas du ciel », c'est-à-dire qu'il faut donner...
Il vient d'en bas.
Exactement, et donc il faut permettre aux individus d'être acteurs du changement dans toutes les organisations.
Dans les agences de com, on appelle ça le bottom-up, c'est ça ?
Si vous voulez, nous on appelle ça, voilà, commencer vers le bas.
Le progressisme, en tout cas, prospère sur une double trahison. C'est ce que vous montrez pour commencer dans ce livre. La droite, et je vous cite, a trahi la liberté. Elle est aujourd'hui le réceptacle des conservatismes paniqués. La gauche, elle, a trahi l'égalité. Elle défend aujourd'hui les corporatismes professionnels. Rien de plus à en tirer. Fermez le banc. Voilà l'oraison funèbre sous la forme de la défense donc du terroir et de la rente. C'est fini, gauche et droite ne servent plus à rien. Ismaël Emelien.
Nous, on est convaincus que la politique ne sera plus jamais comme avant, qu'elle ne reviendra pas ce qu'elle a été. Donc que la gauche et la droite, telles qu'elles ont vécu, c'est fini, c'est clair. Pour les raisons que...
C'est clair.
Oui, pour les trahisons que vous avez évoquées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent à gauche et à droite avec des gens qui proposent des choses, mais ça veut dire que ce n'est pas de là que viendra le progrès demain, pour nous. Nous pensons que l'affrontement qui structure aujourd'hui les paysages politiques en France, mais bien au-delà de la France, c'est celui qui oppose les populistes aux progressistes. C'est pas quelque chose dont on se réjouit, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, mais c'est un fait aujourd'hui. Et donc le pire ennemi des populistes, ce sont les progressistes, et c'est la mission des progressistes que d'assécher les populistes, de répondre aux causes profondes qui ont permis la dynamique des populistes.
Si les partis de gauche et de droite sont effectivement dans un état compliqué, est-ce qu'il ne reste pas pour autant des politiques de gauche et de droite, David Amiel ?
Je crois qu'il faut revenir d'abord sur la faillite de ces politiques depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la gauche et la droite ont été au pouvoir, ils ont préféré servir leur cœur électoral que leurs valeurs. Et si on regarde la question, par exemple, de l'égalité, qui était quand même la valeur centrale de la gauche, et qu'on la met en regard de ce que la gauche a fait pour l'école, qui est là où l'égalité se joue, puisque c'est là où on peut choisir sa vie, précisément, quel que soit son milieu social, si on est un bon élève et qu'on y met toute sa force, toute son énergie, c'est quand même un désastre. Et on voit que la gauche s'est désintéressée.
Jusque-là, un désastre.
Ouais, bien sûr. On a le système le plus inégalitaire de tous les pays développés. Et la gauche a fermé les yeux sur le déclin de la plupart des écoles françaises parce que ses enfants allaient dans celles du centre-ville. La gauche a fermé les yeux sur la faillite des premières années de l'université, qui était quand même le cimetière des classes populaires et des classes moyennes, parce que ses enfants allaient bien souvent dans les classes préparatoires et dans les filières sélectives. Et c'est pour ça justement qu'il a fallu attendre les progressistes, qu'il a fallu attendre Emmanuel Macron, pour à la fois rendre l'école maternelle obligatoire, pour dédoubler les classes dans les quartiers les plus populaires, et puis pour mettre fin à l'injustice du tirage au sort en première année d'université.
Alors justement, ce que vous changez une fois que vous, progressistes, êtes au pouvoir, vous écrivez « Il est plus difficile encore pour les progressistes d'exercer le pouvoir que de le conquérir ». Ismaël Emelian, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est en comparaison avec les populistes. Parce qu'il y a une idée reçue assez commune, qui est qu'on imagine que c'est plus facile quand on est populiste de gagner une élection, parce qu'on peut raconter un peu ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas tenu par un bilan, etc. Mais qu'en revanche, une fois qu'on est au pouvoir, c'est plus facile pour les progressistes d'exercer le pouvoir, parce qu'ils ont une expérience. Souvent, c'est des gens qui ont déjà eu des responsabilités dans l'administration ou ailleurs, etc. Nous, on pense que c'est l'inverse. On pense que c'est en réalité plus facile pour les progressistes de gagner une élection que pour les populistes, mais qu'une fois que l'élection est passée, c'est plus difficile pour les progressistes d'exercer le pouvoir. Pour une raison très simple, qui est que notre objectif, c'est de transformer la réalité, et que les populistes s'en soucient assez peu. Populistes, ils ont même théorisé le fait qu'il existait des vérités alternatives. Ils utilisent, c'est factuel de dire cela, les fake news, beaucoup de techniques de manipulation pour tenter de canaliser les sentiments de leurs électeurs vers des sujets qui n'ont rien à voir avec les vrais sujets qui sont importants pour le destin du pays.
Et si on parle concrètement, vous, à quel moment, puisque vous avez été 2 ans au Palais de l'Élysée, à quel moment, David Amiel, vous avez trouvé que c'était difficile d'exercer cet exercice du pouvoir pour les progressistes?
À chaque instant, ça l'est difficile. C'est difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis 2017, on a beaucoup d'opposition qui essaye tout le temps de rejouer le match de la présidentielle et qui désespère de voir que le système politique ancien sur lequel il prospérait s'est effondré. Mais
par
plus
exemple,
encore.
Dans quel cas ? Sur quel dossier ? Sur quelle mesure ? Où est-ce que ça vous a frappé ?
Sur presque tous les dossiers. Et ce qui est le plus frappant, justement, c'est que, quelles que telles les politiques menées, elles étaient sans cesse ramenées ou bien au vieux clivage gauche-droite, comme si tout ce qu'on essayait de faire, c'était de mélanger un peu d'eau chaude et d'un peu d'eau froide pour faire de l'eau tiède. Mais ça n'a jamais été notre but. Notre but était précisément d'avoir une politique de transformation radicale, et c'est ce qu'on met en œuvre. Et puis la deuxième façon, beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, c'était bien sûr de caricaturer, de ramener à une ou deux mesures l'ensemble des politiques menées, ou bien de chercher la moindre petite phrase, la moindre faille pour déclencher des polémiques. Donc ça, c'est ce qu'on vit depuis 2 ans. Mais je crois que, et c'est là le point essentiel du livre, c'est qu'on voit aussi que pour transformer la société, on ne peut pas le faire uniquement avec l'État, on ne peut pas le faire uniquement depuis le gouvernement, depuis l'Assemblée, depuis la majorité, c'est très important et on fait beaucoup, mais on a besoin d'embarquer toute la société pour la transformer, et c'est aussi à ça que ce livre veut contribuer.
Et ce qui est frappant dans ce livre, c'est votre certitude d'avoir toujours raison, et d'avoir encore raison, même après 2 années au pouvoir. Les Gilets jaunes, pour prendre un événement massif, inédit, les Gilets jaunes ne vous ont pas appris l'humilité, Ismaël et Melien ?
Alors, on espère que... Le livre ne manque pas d'humilité. Donc on ne pense pas avoir raison.
Il n'y a pas vraiment de mea culpa.
On reste ici. On explique les leçons qu'on a tirées de l'exercice du pouvoir. On est très convaincu de ce qu'on propose. Après, c'est quelque chose qu'on verse au débat. Et ça reste des idées qui sont réfutables et avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, évidemment. Les Gilets jaunes, ce qui nous frappe, c'est un double paradoxe. Ils nous disent exactement ce que nous, on avait dit pendant la campagne. C'est-à-dire qu'ils nous disent à la fois que leur souhait principal, c'est que le travail paye. Ils ne revendiquent pas une redistribution massive, ne revendiquent pas le fait d'augmenter tous les minima sociaux. Ils demandent que le travail paye. Et le deuxième élément qui rappelle notre campagne, c'est qu'ils ne se reconnaissent ni dans la gauche ni dans la droite. Et donc, ils nous renvoient quelque part à la figure ce que nous, on a dit il y a 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est interpellant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché jusqu'à présent et qu'on est prêt à reconnaître sans aucun problème.
C'est quoi?
Les choses n'ont pas assez changé. Et c'est pour nous la racine des difficultés qu'on vit depuis deux ans, même depuis un an plus particulièrement. C'est qu'entre le moment où une décision est annoncée, même entre le moment où la loi est votée et le moment où vraiment ça change pour ceux qui sont concernés, il se passe trop de temps. Il y a une partie de ce temps qui est incompressible, mais il y a une partie de ce temps qui dépend aussi de la manière dont les choses sont organisées. Et c'est pour ça que nous, on considère que la méthode doit changer et qu'on y accorde autant d'importance
dans
le livre.
Mais vous estimez n'avoir rien raté, ne pas avoir fait fausse route à aucun moment.
Bien sûr que si, bien sûr que si.
Sur quoi ?
Alors, depuis la baisse des APL, par exemple, qui était un signal qui était malvenu pour une mesure budgétaire, peut-être aussi sur le fait d'avoir annoncer des choses sans les mettre en œuvre immédiatement. Donc on a mis en œuvre en plusieurs étapes les mesures de redistribution, l'annulation de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité. Tout ça a été corrigé le 10 décembre par le président de la République, mais c'est des choses qui avaient été annoncées mais qui n'avaient pas encore été mises en œuvre.
Donc c'est des questions de timing, excusez-moi Alexandra, je vous laisse la parole, ce sont des questions juste de timing et d'exécution, il n'y a pas d'erreur sur le fond idéologique du macronisme.
Non mais je pense que, pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois que l'erreur fondamentale, c'était précisément une erreur de méthode, c'était pas une erreur de cap. Quand on a créé En Marche, on est parti de rien. On n'avait pas de financement public, pas d'élus, et on a fait avec les gens un mouvement politique inédit qui a attiré des centaines de milliers de personnes à la politique qui n'étaient jamais venues avant. Et quand on est arrivé au pouvoir, on est passé un peu d'un extrême à l'autre. Et on a gouverné quasiment uniquement par l'État, et on a trop oublié que la politique, ce n'était pas que ça, et que pour changer la société, on avait besoin de tout le monde. Si je donne un exemple, je pense que pour lutter contre les discriminations dans les entreprises, pour demander à des bailleurs sociaux d'avoir une politique d'attribution des logements plus juste, si on mobilise des citoyens qui vont dénoncer des entreprises en question ou qui vont frapper à la porte des bailleurs sociaux, ça a 100 fois plus d'impact qu'une circulaire administrative.
Donc c'est un livre que vous sortez après 4 mois de contestation sociale, et là ce que vous venez nous dire, ce que vous dites dans ce livre ce matin, c'est le cap était bon, il faut juste continuer toutes ces réformes et aller encore plus vite. C'est ça, Ismaël Emelia, j'ai bien compris.
Alors,
le cap,
effectivement, le cap est le bon, ça c'est clair. La manière dont c'est fait, en revanche, doit changer. À chaque époque politique, a correspondu à un instrument. Pour la gauche, c'était les syndicats, pour la droite, c'était les notables, et l'instrument progressiste, pour nous, c'est les citoyens, c'est les gens. C'est ce que permettent aujourd'hui à la fois l'État des individus, qui aspirent chacun à l'autonomie. C'est ce que disent les gilets jaunes, ils veulent choisir leur vie. Et puis c'est ce que permettent aussi les outils technologiques. Et c'est pas un hasard aussi si En Marche a pu se faire en 2016, à un moment où il était plus facile de s'organiser grâce à Internet, aux réseaux sociaux, etc.
Mais en même temps, comme dirait le chef de l'État, Emmanuel Macron a tout de suite théorisé la verticalité du pouvoir. Le jupitérisme, le fait de se passer des corps intermédiaires, de tenir les syndicats, les maires, les élus locaux à distance, ils se sont sentis méprisés, ils l'ont dit, il a fallu corriger le tir au moment de la crise des gilets jaunes. Est-ce que vous continuez à assumer cette verticalité ? Est-ce que vous continuez à dire que le monarque républicain doit parler au peuple sans filtre ? Ismaël Emelien, David Amiel, qui veut répondre ? David Amiel.
Je vais répondre. Je pense que on n'a jamais dit qu'on n'avait pas besoin de corps intermédiaires. Ça, c'est le discours des populistes, qui est de dire il y a un chef et il y a le peuple, il n'y a aucun contre-pouvoir entre les deux.
Il y a non, dire a et besoin... faire hein, aussi, non, enfin a... dire et ne pas faire en l'occurrence.
Mais justement, on a besoin de corps intermédiaires. Mais la légitimité des corps intermédiaires, ce n'est pas le président de la République ou le gouvernement qui leur donne, c'est les gens. Depuis 30 ans, on voit, si vous prenez l'exemple des syndicats, que le taux d'adhésion aux syndicats s'effondre. Et donc la première question qui se pose pour les corps intermédiaires, c'est pourquoi et comment reconquérir cette légitimité.
Mais quels sont les corps intermédiaires que vous désirez
Nous, c'est ce qu'on appelle dans le livre transformer les corps intermédiaires en associations intermédiaires. C'est-à-dire que les corps intermédiaires comme les syndicats devraient passer moins de temps à interpeller l'État et plus à changer la société. Pourquoi ? Parce que pour interpeller l'État, les citoyens n'ont plus besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin de la CGT pour organiser une manifestation. On l'a vu avec les gilets jaunes, et ils n'ont pas besoin de la CFDT pour signer des pétitions. Par contre, on a toujours besoin de syndicats pour changer la vie dans les entreprises, pour organiser la formation, pour inclure des... Et donc c'est tout ça que les syndicats devraient faire, et nous on en serait les premiers heureux.
Il y a eu une pratique verticale du pouvoir, Ismaël Emelien.
Non, non, non.
Alors pourquoi a-t-il fallu annoncer un deuxième temps, plus en concertation, avec un certain nombre de débats, l'idée qu'il fallait aller vers les élus locaux, il y a bien une correction.
Dans le pouvoir, il y a deux choses qui sont nécessaires, il y a de la verticalité, il y a de l'horizontalité. Il faut toujours les deux.
On a vu la verticalité commencer.
Oui, mais la verticalité, elle est nécessaire pour décider et pour avancer. C'est ce qui avait manqué depuis longtemps. Il faut de l'horizontalité pour se mettre d'accord sur un diagnostic. Donc c'est ce qu'on avait fait pendant la campagne, et c'est un des objectifs du grand débat que d'arriver à se mettre d'accord tous ensemble sur la réalité des problèmes. Et ensuite, il faut une implication de tous, et c'est vraiment le message central de ce livre, en aval, pour se saisir des instruments qui sont créés et pour que chacun puisse faire progresser ainsi les choses de manière collective. Je donne un exemple. Quand on a réformé le marché du travail, qu'on a créé des mécanismes qui permettent dans les entreprises de négocier des dérogations à la loi, eh ben, ça ne produira jamais aucun effet si au sein des entreprises, les employeurs et les employés, avec l'aide des syndicats, ne s'en saisissent pas.
Mais vous évitez la question de l'usage vertical du pouvoir.
Non, je l'évite pas. On l'assume parfaitement. Il faut pouvoir décider. Il y a aucun débat sur ce sujet.
Alors, toutes les petites phrases, hein, comme celle sur le pognon de dingue versé aux pauvres sans grand résultat, sur le je traverse la rue, je trouve un job, ou hier encore sur la sagesse que devrait acquérir la septuagénaire blessée à Nice. Est-ce que vous comprenez, Ismaël Emelien, je vois que David Amiel a envie que ça soit vous qui répondiez, vous comprenez que ce qui a pu sembler disruptif pendant la campagne soit apparu insupportable ensuite?
Ismaël Emelien.
On comprend qu'il y ait des gens qui aient ressenti avec émotion, avec difficulté, les phrases dont vous parlez. Il faut juste se mesurer deux choses. D'abord, le président de la République, il a une caractéristique depuis bien avant que ce soit président de la République, qui est de dire ce qu'il pense et de parler franchement. Et il le fait 100% du temps. Évidemment, ça crée des risques de confrontation. Et donc, il arrive par moment, et c'est quelques fois depuis 2 ans, que la confrontation produise une polémique. Mais le reste du temps, il est tout aussi direct et tout aussi franc, et ça ne crée aucune polémique. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est peut-être le prix à payer pour avoir quelqu'un qui dit ce qu'il pense et puis qui fait ce qu'il dit. La deuxième chose, c'est que chacune de ces polémiques, on peut la prendre une par une. Si on prend par exemple le pognon de dingue...
C'est vous, ça, il paraît.
Pardon, alors ça c'est, on a une ligne de conduite très claire, qui est qu'on assume 100% de ce qui a été dit ou fait par le président de la République, mais personne ne va s'attribuer la paternité d'une idée ou d'une proposition, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le fait qu'elle ait provoqué une polémique montre qu'il y avait une sensibilité. Après, elle a attiré l'attention du public sur un sujet qui est important et qui est une réalité, qui est que c'est vrai que notre système coûte très cher, ce qui n'est pas un problème en soi. Ce qui est le problème, c'est que le résultat qu'il produit sont insuffisants au regard de l'argent qu'on y met. C'est ça ce que cette phrase veut dire. Et donc, c'est un débat qu'il est nécessaire d'avoir. Comment est-ce qu'on fait en sorte de produire des résultats qui soient plus satisfaisants avec l'ensemble de l'investissement qui est réalisé, par exemple, pour combattre la pauvreté? C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'entretenir des gens dans la pauvreté, qu'ils survivent dans la pauvreté, il faut essayer de les aider à en sortir.
On vous prête Ismaël Emelien, mais la question, je la pose à David Amiel. La théorie des premiers de cordée, le fait que une société est tirée, assurée au sens de la montagne, assurée par ceux qui sont plus forts ou ont de la réussite. L'expression et même la philosophie qui sous-tend l'expression ont pu choquer. Est-ce que vous comprenez justement ça, le fait que ça ait pu choquer, et est-ce que éventuellement vous dites que c'était une erreur de formuler les choses comme ça, David Amiel?
Bah, ça dépend quelle est votre question. Si c'est de me demander si la formule a choqué et donc c'était une erreur, peut-être. En tout cas, elle n'est pas faite pour choquer.
Oui, hein,
Non, mais elle n'est pas faite pour choquer. Ensuite, qu'est-ce que ça voulait dire sur le fond? Ça voulait dire que Enfin, je le résumerai d'une formule. C'est-à-dire, c'est de dire que le problème en France, ce ne sont pas tant les inégalités que les injustices. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait des gens qui gagnent plus que d'autres. C'est quand ceux qui gagnent moins, quels que soient leurs efforts, ne peuvent jamais gravir précisément la cordée. On vit pas dans une société plus inégalitaire, si on regarde les revenus, que sous le général de Gaulle. Mais on vit dans une société beaucoup plus injuste. Pourquoi? Parce que le cadre gagne toujours plus que l'ouvrier, mais aujourd'hui, l'ouvrier ne peut plus devenir cadre. Et c'est contre cette injustice-là que l'on se bat.
Et justement, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez des gens avec qui vous avez travaillé? Je pense à l'économiste Philippe Aguillon, je pense à Jean Pisani-Ferry, et qui, en substance, explique que ce gouvernement a un peu trop oublié la jambe gauche, le social, justement. Pour l'instant, vous restez toujours avec, cet exécutif reste toujours avec l'image de l'ISF et le président des riches.
Ismaël Emelien.
C'est typiquement pour arriver à casser cette image qu'on a écrit ce livre et qu'on est aujourd'hui devant vous pour en parler. C'est-à-dire que la réalité de ce qui a été fait, elle est différente de la perception. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple que vous donnez, pour 1 euro qui a été donné sur la partie libérée, il y a eu 3 euros qui ont été consacrés à la partie protégée. Il y a un investissement qui est réalisé aujourd'hui sur la formation des personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi, qui est plus important qu'il n'a jamais été fait.
Et les Français ne le réalisent pas, ils ne voient pas. En fait, vous dites, les Français ne comprennent pas ce qu'on fait.
Non, c'est justement, c'est pas un problème de compréhension, c'est pas un problème de pédagogie. C'est qu'il y a un problème dans l'exécution, qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été créés qui ne sont pas encore utilisés par les Français. Donc on bâtit des cathédrales et on s'étonne que personne ne soit dedans. C'est pas parce que les Français savent pas ce que c'est qu'une cathédrale, c'est juste qu'ils sont pas au courant. Donc ça fait partie des problèmes qu'on dénonce dans le livre, qu'on reconnaît, et les propositions qu'on fait pour y remédier.
On va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Quelques questions juste avant, Ismaël Emelien, sur l'affaire Benalla. Avez-vous quitté l'Élysée à cause de cette affaire?
Non.
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 Aucun rapport?
Aucun rapport.
Pourquoi avez-vous diffusé, afin qu'elle soit mise en ligne, j'imagine, comme élément à décharge, la vidéo d'Alexandre Benalla qui montre ce qui s'est passé avant qu'il ne violente le couple de manifestants de la place de la Contrescarpe? Pourquoi avoir diffusé ça?
C'est, moi, ce que j'ai fait, j'ai été interrogé par la police sur ce sujet, et l'intégralité de ce que j'ai répondu aux policiers, des réponses que je leur ai apportées, a été publié dans la presse. Donc j'ai pas grand-chose à apporter à ce que j'ai dit aux policiers.
Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez une mise en examen dans le cadre de cette affaire, Ismaël Emelien?
Compte tenu du fait que je n'avais aucune connaissance et aucun moyen de savoir la provenance de la vidéo, je ne pense pas que je ferai mon examen. Mais c'est pas moi qui en décide.
Évidemment. Vous étiez en charge aussi de la communication de crise à l'Élysée, c'est-à-dire de la contre-offensive médiatique, il faut appeler les choses par leur nom. Cette affaire Benalla a-t-elle été bien gérée par l'exécutif?
Alors, compte tenu de ce qu'on savait à l'époque, je ne pense pas qu'il aurait été possible de faire autrement.
Et
compte tenu de ce qu'on sait depuis, c'est sûr qu'on aurait fait les choses différemment. Mais c'est comme si vous demandiez à l'entraîneur du PSG, après le match retour contre Manchester United, est-ce que vous avez eu raison de sélectionner le défenseur qui a offert le premier but à l'adversaire?
Sauf que là, un peu plus grave que le foot.
Bien sûr que c'est plus grave que le foot, c'est une image. C'est juste une fois que le match a été joué, le rejouer, ça n'a aucun sens.
Mais on peut lire la feuille de match et voir quelles ont été les erreurs. Vous reconnaissez lesquelles, par exemple?
C'est sûr que si on savait l'intégralité de ce qui avait été commis par Alexandre Benalla, les choses probablement n'auraient pas été aussi longues pour son départ.
Allez, on file au standard où Fabien nous attend. Soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, je voulais féliciter vos invités pour leur beau travail sémantique, mais en fait personne n'est dupe. En tout cas, je pense que c'est une belle arnaque politique de prétendre au progressisme quand en fait on n'est pas du tout dans une démarche de progrès social. C'est plutôt la régression à la façon de Thatcher, c'est-à-dire en prétendant qu'il n'y a pas d'autre alternative face notamment aux populistes. Et dans le débat européen comme dans le débat national, on voit qu'au contraire, les inégalités sous ce gouvernement, et pas différemment des autres, ont explosé, continuent encore plus à exploser. L'ISF n'en est qu'un des vecteurs. Et ça, c'est quand même très grave de ne pas assumer que non, ça n'est pas du progressisme et que oui, il y a d'autres alternatives dans le débat politique et que vous n'êtes pas le seul recours et que derrière les mots, il faut des actes et que ce gouvernement, ce président ne sont pas au rendez-vous en matière écologique comme en matière sociale.
Merci Fabien pour cette question. Qui veut répondre, David Amiel?
Bonjour. Il y avait au moins deux questions dans votre question. La première, c'est de savoir si on est le... Merci. La première, c'est de savoir si on est le seul recours. Honnêtement, plus il y en a, mieux c'est. La vérité, c'est que nous, on a eu le sentiment que quand on est arrivé en politique, en 2016, en 2017, les populistes avaient monté depuis longtemps. Ils étaient montés en France avec les scores de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Et puis surtout, ils triomphaient partout à l'étranger. Aux États-Unis, en Italie, avec le Brexit au Royaume-Uni, etc. Et donc, on a plutôt eu le sentiment de prendre le flambeau qui était tombé à terre et que les vieux partis politiques avaient laissé dans la poussière qu'autre chose. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième qui était de savoir si ce qu'on fait est une politique de régression sociale.
Thatcher, dit l'auditeur.
Voilà. Alors honnêtement, il suffit de reprendre un peu des éléments très symboliques de ce qu'on a fait depuis 2 ans. La suppression de la taxe d'habitation, c'est la plus grande mesure de redistribution pour les territoires abandonnés qui n'ait jamais été faite. Jamais. Le dédoublement des classes, c'est tous les ans 150 000 enfants des quartiers les plus pauvres dont la vie est changée. L'entrée à l'université, pareil, c'est tous les enfants des classes moyennes et des classes populaires dont on ne sacrifiera plus ou bien par le tirage au sort ou bien ensuite par des taux d'échec monstrueux. Donc je crois qu'on a beaucoup construit, mais effectivement, notre problème ce n'est pas les inégalités, c'était les injustices.
Ismaël Emelien, est-ce qu'à un moment, en tout cas pas dans le livre, vous vous dites que Emmanuel Macron est peut-être Matteo Renzi, c'est-à-dire pas le premier homme du nouveau monde, mais le dernier homme de l'ancien monde?
Non, je ne crois pas.
Pourquoi ? Quelle différence ?
Parce que je pense que ce qui a été lancé, les choses qui sont accomplies, produiront des résultats avant la fin du quinquennat et que la réalité fera changer la perception que certains des Français portent sur l'action et sur le président.
À ce stade, cette perception vous semble injuste ?
Oui.
Les Français
alors,
ont...
Injuste, oui, ouais. Non. C'est-à-dire que elle me semble injuste sur l'homme et sur l'orientation. Ça, c'est clair et ça fait partie de c'est la réponse à laquelle David vient de répondre. En revanche, elle me semble fondée sur un point qui est essentiel, qui est que les choses n'ont pas assez changé. Voilà. La promesse qui a été faite en 2017, elle n'est pas encore tenue, et ça, on en est conscient. Et tous les efforts sont fournis pour qu'elle soit tenue d'ici à la fin du quinquennat.
L'homme concentre aussi, l'homme Emmanuel Macron, président de la République, concentre aussi un certain nombre de questions, notamment sur son arrogance. Les petites phrases dont on parlait tout à l'heure ont pu, comment dire, nourrir le dossier. Est-ce qu'il y a une part de vérité, vous qui l'avez côtoyé depuis le début, dans ce portrait qui en est fait, ou est-il scandaleusement faux et injuste, bah, Ismaël Emelien?
Franchement, plus on le connaît, et on le connaît bien, plus on est scandalisé. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui
est. Et moins on le connaît, ce qui est le cas des Français.
Et moins on le connaît, et peut-être plus on a l'impression, mais qu'une impression qui n'est pas la vérité.
Dernière Alexandra. Question, oui, vous avez respectivement 26 ans, David Amiel, Ismaël Emelien, 32 ans, vous avez la vie devant vous. Vous allez faire quoi maintenant que vous avez quitté l'Élysée?
David Amiel.
D'abord, on va profiter des prochaines semaines et des prochains mois pour défendre
notre
livre.
Parler progressisme,
exactement.
Oui.
Faire de la politique d'une autre manière.
Tout à fait. Mmh. Donc, à la fois ici, dans les médias, et puis plus encore, on va aller dans le plus d'endroits possible en France. On va aussi aller à l'étranger pour présenter notre livre à tous ceux qui se battent pour les mêmes valeurs que nous, mais dans d'autres pays. Et on espère d'ailleurs profiter de cette période, non seulement pour expliquer nous ce à quoi on croit, mais surtout pour entendre aussi ce que les gens ont à nous dire, les critiques, les ajouts, les suggestions. Et donc voilà, c'est à ça qu'on va consacrer notre vie dans les prochains mois.
Et vous, Ismaël Emelien, 32 ans, même chose.
Même chose dans les prochains mois, puis après on ne sait pas.
Nathalie Loiseau sera, j'ajoute une question à la dernière question, sera tête de liste La République En Marche aux européennes. Le progressisme tient sur ses épaules, elle a lu votre livre.
Je ne sais pas si elle a eu le temps de le lire encore, mais j'ai aucun doute qu'elle sera une très bonne candidate progressiste.
Ce sera le bréviaire de la campagne.
Chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. On espère que ce sera utile. C'est pour ça qu'on l'a écrit, puis c'est pour ça qu'on prend tous les risques, on quitte tout pour le défendre.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir réservé à France Inter vos premiers mots en public. Ismaël Emelien, David Amiel, vous co-signez donc ce manifeste chez Fayard intitulé « Le progrès ne tombe pas du ciel ». 8h47, le carrefour du 7-9. À suivre.
Diabétique de type 2, vous aimeriez bien un coup de pouce pour contrôler votre glycémie ? Suivez le guide, AcuCheck Guide de Roche Diabetes Care France.
AcuCheck Guide est un nouveau dispositif médical de diagnostic in vitro. Pour plus d'informations, consultez la notice. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Attention, à vos tongs, prêts, partez ! Ne ratez pas le départ. Les billets Ouigo et TGV Inouï pour l'été sont en vente dès aujourd'hui sur Oui SNCF. Profitez des meilleurs prix et des meilleurs horaires pour dire oui à l'été. Réservez vite sur Oui SNCF. Offre soumise à condition à retrouver sur le site Oui SNCF sous réserve de disponibilité.
8h48.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
La revue de presse, Claude Askolovitch, on parle de chiens de traîneau ce matin.
Qui me regarde depuis le Groenland sur le site du Monde, et cette image sera notre exotisme ce matin. Bien loin de nous, tant de paix encore. À Okatsut, devant la banquise, 29 habitants. Chaque matin, Nuka Olsen au visage lunaire évalue la dureté de la glace. Le vent du Nord l'a-t-il suffisamment durci pour que l'on sorte les traîneaux pour chasser ? Stein Gabrielsen, boule de muscles, préfère lui pêcher car la glace n'est plus sûre et les eaux sont libres. Souvent désormais. Et c'est donc une nouvelle histoire de réchauffement climatique quand la calotte glaciaire fond. Mais pour une fois, ce n'est pas la catastrophe que je lis, mais dans le Monde, la force et la douceur des hommes et des femmes, douceur de Bertheline, qui à 80 ans s'en va tous les jours creuser un trou et pêcher dans ce qui reste de banquise. Okatsut, qui connaît déjà les motoneiges et les hélicoptères, connaîtra aussi le changement du climat. Et j'envie français ce sentiment d'éternité quand je lis dans la Voix du Nord le désarroi de nos pêcheurs à pied, car les moules disparaissent dans le Boulonnais, les rochers sont vides, nul ne sait pourquoi, mais c'est désespérant. Dans le Monde encore, on me raconte en France ce que la vertu nous promet. En 2050, nous serons un pays neutre en carbone, de voitures électriques et de maisons partagées à plusieurs familles. Nous mettrons en commun cellules photovoltaïques et petits potagers. Sommes-nous tentés au pays de l'individualisme, ou sentirez-vous, Nicolas, lisant Le Monde, comme moi, l'angoisse de la vertu qui vient ? Pour l'instant, heureusement. L'individu reste maître et les transitions sont chaotiques. La Provence s'esbobie de l'anarchie des trottinettes électriques à Marseille. La Dépêche raconte comment vélo, scooter, trottinette et piétons se disputent l'espace toulousain. Le Parisien recense les amendes que risquent à Paris les cyclistes qui doivent tendre le bras pour tourner et doubler les voitures à gauche. Essayez. Loin des villes de cyclistes, remue la France des solitudes, la République du Centre et le site de France Bleu me parlent de Jimmy, qui roulait trop vite samedi dernier, les gendarmes l'ont arrêté, ils ont trouvé dans son coffre une fronde, des billes de métal, une batte de baseball en acier qu'il avait fabriquée lui-même, car Jimmy est soudeur, et également Black Bloc, dit-il. Black Bloc à lui tout seul, Black Bloc dans la pensée, disait-il en garde à vue, le Black Bloc debout, B.O.U. son village. Il a pris 10 mois, dont 6 fermes, et sa maman a pleuré. Samedi, il voulait, me dit le site de France Bleu, rejoindre un homme rencontré sur un barrage pour casser de la vitrine au Mans, sans doute en soutien des forains.
On parle de Chine également, Claude.
Et l'Arc de Triomphe se faufile à la une du Financial Times, avec deux couples heureux, Brigitte et Emmanuel Macron, Xi Jinping et Peng Liyuan. Et le FT titre sur notre deal Airbus qui, ajoute-t-il, un coup pour Boeing. Voilà ce que nous sommes ce matin, le pays où la Chine a acheté des avions pour humilier un avionneur américain. Sexy le patron, titrant une Libération, qui expédie notre beau contrat Airbus d'une phrase négligée et préfère raconter l'emprise chinoise en Europe et ses ingénieurs qui, déjà en Croatie, construisent un pont qui va relier Dubrovnik, perle de l'Adriatique, au reste du pays pour contourner une scorie de l'histoire, une bande de terre qui appartient à la Bosnie et dont les postes frontières provoquent des bouchons. Chacun, en France, voit la Chine à sa porte. Pour Nice ce matin, le passage de Xi Jinping restera le souvenir d'immenses nuisances, de grands embouteillages et de deux roues mis à la fourrière. Pour la Dépêche, évidemment, c'est Airbus. Airbus qui, dans ce journal, est plus qu'un industriel, mais un bienfaiteur et à l'avore. Pour Lou, qui a 9 ans et qui est né sans un avant-bras, des salariés d'Airbus ont fabriqué une prothèse si chouette et en titane qu'à l'école, on l'envie. Voilà les histoires que l'on recherche d'instinct, comme pour se protéger du mal qui rôde et déchire les innocents. Street Press publie une enquête horrible sur les violences sexuelles que subissent des femmes autistes qui, ne sachant pas communiquer leur refus, sont la proie des prédateurs. Cette vulnérabilité des handicapés va vous tordre le cœur, mais parfois aussi de poésie. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, vous découvrez Karim, autiste et déficient mental, mais il prend des photos. Et autour de lui, un quartier, des voisins, des amis, des commerçants qui prétendent être ses employeurs et lui achètent ses photos. Et sa maman ont organisé une comédie d'amour qui est son univers.
Et les aveux de Cesare Battisti pour finir.
L'ancien terroriste italien qui a reconnu les crimes pour lesquels il avait été condamné. Et dans l'Obs, sur le site de l'Obs, un ancien magistrat italien, Armando Spataro, autrefois chef du pôle antiterroriste, acte tranquillement cette reconnaissance de l'état de droit de son pays et il dit ceci. J'espère que cela change quelque chose pour tous ceux qui ont soutenu que Battisti était un innocent persécuté. Je pense surtout à l'intelligentsia française qui continuait à soutenir la thèse de l'erreur judiciaire sans connaître les faits. J'espère que pour cela, la confession de Battisti changera quelque chose et qu'ils reconnaîtront qu'ils se sont trompés. Et que ce texte soit sur le site d'un journal de gauche n'est pas indifférent. Nous sommes le pays qui, ce matin, d'Italie, a reçu une leçon.